Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 10h30 ici à Paris et à Goma.
Xavier Besson.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière édition d'Afrique Matin. À la une ce matin, donc, Goma, la grande ville de l'Est congolais, où ont eu lieu des combats cette nuit. Affrontement entre les hommes du M23 qui contrôlent la ville et des soldats congolais ainsi que leurs alliés Wazalendo. Incursion repoussée, dit le M23. Pas de commentaire officiel côté Kinshasa. On fait le point dans un instant. Dans ce journal également, le Gabon qui vote aujourd'hui, premier tour de l'élection présidentielle, un peu plus d'un an et demi après le coup d'état du général Oligui Nguema. La Côte d'Ivoire, les opposants du PDCI et du PPACI quittent la commission électorale, jugée trop partiale. Ils réclament un nouveau dialogue national. Et puis on s'intéresse aux conséquences des nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis. Impact limité pour les économies africaines, assure l'agence de notation américaine Fitch. Le gouverneur de la BAD, la Banque africaine de développement, lui, n'est pas de cet avis. Le calme est donc revenu depuis maintenant plusieurs heures, depuis la fin de la nuit à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, la capitale du Nord Kivu, aux mains des rebelles du M23 depuis la fin du mois de janvier. Théâtre donc dans la nuit d'affrontements, tirs à l'arme légère, tirs d'armes lourdes, même des obus ont été entendus. Incursions de militaires congolais et de leurs alliés Wazalendo. Le M23, mouvement soutenu par le Rwanda, dit les avoir repoussés. Vincent Dublange.
Le gouverneur du Nord Kivu, installé par la FC M23 qui contrôle la ville depuis deux mois, affirme, je cite, « avoir anéanti les assaillants ». Il cite les FARDC, l'armée congolaise donc, mais aussi leur supplétif Wazalendo, et puis les FDLR, ce groupe rebelle à l'origine fondé par d'anciens génocidaires Hutu-Rwandais à la fin des années 90. Selon des sources concordantes, l'attaque de la soirée, qui s'est poursuivie dans la nuit, était bien coordonnée, les assaillants lourdement armés et nombreux, ils ont réussi à atteindre la route principale Katindo Ndosho avant d'être repoussés. Ils auraient, d'après un habitant de Goma, pillé plusieurs maisons sur l'avenue Balindou. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible. Quelques corps en tenue militaire sont visibles dans certaines rues. Au moins un décès et un blessé enregistré dans une structure hospitalière à Goma, d'après une source sanitaire. La circulation a repris ce samedi matin. Des écoliers se rendent à l'école. Circulation timide toutefois, puisque c'est une journée dédiée au Salongo, les travaux communautaires.
Et ce matin, il n'y a pas encore eu de réaction officielle de la part des FARDC, l'armée congolaise, ni des Wazalendo. Et notez que ces combats à Goma interviennent après plusieurs jours d'affrontements ailleurs dans les provinces du Nord, mais aussi du Sud Kivu, l'Est congolais également, où l'UNICEF s'alarme des violences sexuelles contre les enfants. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses, affirme l'agence de l'ONU, qui parle non pas d'incidents isolés, mais bien de crises systémiques et de tactiques délibérées de terreur. L'UNICEF a recensé des milliers d'enfants victimes de viols et de violences sexuelles depuis le début de l'année. Et des chiffres qui sont, prévient l'UNICEF, sans doute encore loin de la réalité. Et ce matin, sur notre antenne à propos de la RDC, vous avez aussi pu entendre le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsapu. Il dénonce toutes les exactions commises dans l'Est par les hommes de la FC M23, mais aussi par les militaires congolais et leurs alliés Wazalendo. Il souhaite une commission d'enquête internationale pour établir, dit-il, toutes les responsabilités. Vote en cours au Gabon. Il est 9h33 à Libreville, un peu plus d'un an et demi après le coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo. Premier tour donc de l'élection présidentielle avec des opérations de vote qui ont bien débuté, nous ont indiqué ce matin nos correspondants et envoyés spéciaux sur place. On fera un nouveau point complet tout à l'heure dans Afrique Midi, 12h30, temps universel. Le Gabon, où les bureaux de vote doivent fermer à 18h. TU présidentielle en Côte d'Ivoire, prévue au mois d'octobre. Hier, deux des principales formations d'opposition, le PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, et le PDCI de Tidjane Thiam. Ces deux partis donc ont suspendu leur participation à la commission électorale. CEI accusé de partialité. Et les deux partis demandent un nouveau dialogue national. À Abidjan, Benoît Almeras.
Disqualifié et discrédité, c'est ainsi que Laurent Gbagbo juge la commission électorale. En plus de suspendre la participation de son parti à la CEI, l'ancien président réclame un dialogue politique sincère pour, dit-il, remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin d'élections crédibles, inclusives et apaisées. Position défendue par le secrétaire général du PPACI, Jean-Gervais Tchéidé.
Il y a quel danger à appeler à un dialogue pour qu'on aplanisse les incompréhensions. C'est la meilleure façon d'éviter la crise. L'opposition dans son ensemble appelle à ce dialogue, sinon le gouvernement n'a aucunement l'intention de dialoguer. Le porte-parole du gouvernement nous l'a dit.
De son côté, le PDCI de Tidiane Thiam juge cette concertation indispensable pour l'organisation d'élections transparentes. Requête injustifiée en revanche pour le ministre Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, le parti au pouvoir.
C'est du dilatoire. En réalité, cette opposition ne s'est jamais bien préparée pour les élections présidentielles. Elle a eu du retard, elle est minée par des divisions internes. Je pense qu'ils sont conscients de leurs faiblesses, ils sont conscients de leurs limites et on cherche donc des arguments pour justifier sa non-participation à une élection présidentielle.
Mamadou Touré qui rajoute qu'un dialogue politique ne s'impose pas au vu de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Il a notamment été question de migration et de moyens de lutter contre les migrations illégales à Bamako hier, où le ministre mauritanien des Affaires étrangères a été reçu par le président de la transition malien. Alors que la Mauritanie se trouve sur plusieurs routes migratoires vers l'Europe, le ministre mauritanien a révélé que plus de 100 corps de jeunes hommes ont été repêchés depuis le début de l'année au large des côtes mauritaniennes. Correspondance régionale, Serge Daniel.
Plus de 500 corps de jeunes Africains candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe ont été repêchés l'an dernier sur les côtes mauritaniennes. En début de cette année, de nombreux cas de décès sont déjà enregistrés. Parmi les pays de départ de ces jeunes, il y a le Mali. C'est cette tragédie humaine que nous devons affronter ensemble, a déclaré à la presse locale le ministre mauritanien après sa rencontre avec le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta. Parmi les mesures pour faire face à la situation, des campagnes de sensibilisation, mais également la lutte contre les réseaux mafieux organisant le trafic. Premier dans le collimateur, les trafiquants de passeports. Plusieurs détenteurs de documents de voyage maliens arrêtés en Mauritanie sont en réalité originaires d'autres pays. Dans le domaine des transports, il y a d'autres membres du réseau des trafiquants. Le Mali et la Mauritanie ont décidé de renforcer leur coopération. Les deux pays vont améliorer, par exemple, le partage des fichiers renseignements. À Bamako, le chef de la diplomatie mauritanienne a également évoqué la situation de nombreux ressortissants maliens résidant dans son pays. Récemment, le Mali a demandé à son voisin plus d'humanité à l'égard de ses ressortissants en situation régulière ou irrégulière. Serge Daniel, Dakar, RFI.
L'orage est passé, mais le calme n'est peut-être que temporaire. Donald Trump, cette semaine, le président américain, est finalement revenu sur sa décision d'augmenter une nouvelle fois les droits de douane. Il a fixé pour les trois prochains mois, au moins, à l'exception de la Chine, un taux de taxation à 10% pour tous les produits qui entreront sur le territoire américain. Sont concernés donc les pays africains et certains, comme Madagascar ou l'Afrique du Sud, par exemple, échappent à des taux bien plus élevé. Et globalement, l'agence de notation américaine Fitch estime que les économies africaines ne devraient pas être trop affectées par cette mesure. Précision, explication avec Claire Fage.
Le gel de l'aide américaine et les tensions commerciales ne risquent pas de dégrader la note des économies africaines, rassure Fitch. L'agence de notation américaine estime que l'impact des taxes Trump en Afrique sera limité étant donné la faiblesse relative du marché américain pour le continent, 7% des exportations africaines. La Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Namibie demeurent aux yeux de Fitch relativement épargnées par les derniers événements. L'agence de notation américaine maintient ses perspectives de crédit positives. Elle entrevoit même une possible amélioration de la note des Seychelles et du Nigeria grâce aux réformes entreprises dans ces pays. Le gel de l'aide américaine porte certes un coup à l'Afrique. Elle était de loin le premier continent récipiendaire de l'USAID. Comme le FMI, Fitch reconnaît les risques pour les budgets des États les plus pauvres ou dépendants de cette aide, notamment l'Éthiopie, le Mozambique, l'Ouganda ou le Lesotho. Mais l'agence de notation américaine parie sur la place croissante que prendront les banques africaines de développement dans le paysage financier du continent. Elle anticipe aussi une hausse des investissements américains dans les minerais africains.
Et autre point de vue ce matin à propos des droits de douane, celui du président de la BAD, la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Lui, il estime qu'il faut s'attendre à d'autres ondes de choc pour les économies africaines. Il dit notamment que cela risque d'affaiblir les monnaies locales et ces droits de douane américains, leurs conséquences en Afrique. On continue d'en parler dans quelques minutes sur RFI, dans la deuxième partie du débat africain avec Namouri Dosso tout de suite. Si vous nous écoutez à Paris ou sur le continent africain, 10h40, ici à Paris.